Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Missy.
Il est 10h06, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport sur RMC. On vous accompagne toute la matinée jusqu'à midi avec Julien Beneteau, Simon Dutin, Jérôme Pinault et Pascal Duprat. J'espère que vous êtes en forme. Je sais qu'on parle beaucoup des jeux du sport, ce sera évidemment tout à l'heure. Appelez-nous d'ailleurs au 3216 pour venir participer tout à l'heure et remporter votre enceinte portable Muse, de la marque française Muse. Vous nous appelez au 7-32-16 et au 7-32-16 vous envoyez sport ou sinon 32-16 touche 4 pour venir participer. En fin d'émission, un conseil, choisissez bien la bonne équipe. Je vous la donnerai tout à l'heure. Messieurs, en plateau, c'est le documentaire qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Le bus, les Bleus en grève. Un documentaire Netflix retraçant le naufrage tricolore à Nice lors de la Coupe du Monde 2010.
RMC, le ring des GG.
Moi j'ai dit, mais comment vous avez pu laisser un article sortir? Comment un journal il t'appelle à 3h du matin, tu sais que ça va faire la une? Le lendemain, c'est parce qu'il faut aller un bouc émissaire, les gars.
Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka.
Je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. C'est la France qui est en train de souffrir, c'est notre pays.
Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous.
16 ans après, certains des acteurs principaux...
Remonté, Robert Duverne, il va s'en aller en jetant son chronomètre par terre.
Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse.
L'adjoint ne peut pas répéter ce que j'ai dit, puisque déjà, il ne l'a pas entendu. Ouais. Et en plus de ça, la phrase dans l'équipe, elle n'a absolument rien à voir.
Quand tu es dans un groupe, tu sens le climat. Tu sens que quand tu passes, les joueurs te taisent. Et je sentais, je dis, il va se passer quelque chose.
L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui.
16 ans après, certains des acteurs principaux sont revenus sur l'événement le plus marquant du foot français, un documentaire dans lequel un homme ressort, c'est évidemment Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus en 2010, et qui donc, 16 ans après, a fait éclater la vérité, notamment sur les propos tenus par Nicolas Anelka à son encontre. Clément Brossard est avec nous ce matin. Salut Clément.
Salut Flora, salut les GG.
Salut Clément.
Clément, ce qui ressort surtout, c'est la personnalité de Raymond Domenech et notamment bien la haine qu'il a pu ressentir pour certains de ses propres joueurs.
Oui, c'est fascinant de voir à quel point un sélectionneur peut être aussi déconnecté de son groupe. Finalement, c'est la leçon, on a l'impression, de tout ce qu'il faut faire pour programmer un naufrage mondial. Tout commence par la fameuse scène du vestiaire, les mots de Nicolas Anelka à la mi-temps du match contre le Mexique, inutile de les rappeler, qui figurent en une du quotidien L'Équipe, des mots qui n'auraient jamais été prononcés, mais que Raymond Domenech n'a pas voulu contester.
Vous pouvez pas imaginer à quel point je m'en fous.
S'ensuit la scène de la lettre lors de la grève des joueurs à l'entraînement.
Donne-moi ça. Je vais aller la lire, moi, cette putain de lettre.
L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui.
Vraiment, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Premier truc que je me dis, putain, c'est pas eux qui ont écrit ça, il n'y a pas de faute d'orthographe.
Une pique, comme beaucoup, on en retrouve dans ce documentaire où l'une des stars est le journal intime du sélectionneur. Dans celui-ci, il est écrit qu'Anelka est un connard, que Galas fait toujours la gueule, qu'Henri regarde son nombril. J'ai parfois des montées de haine envers ces abrutis, écrit Raymond Domenech, le capitaine de l'époque. Patrice Evra explique une scène du Mondial 2010 quand il s'apprête à venir parler à son sélectionneur des séances d'entraînement qui ne fonctionnent pas. Réponse, selon Evra, de Raymond Domenech.
Et là, je vais voir Raymond.
Coach, oh, je sais! Je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je sacrifie l'agneau. Ben, je vais lui mettre la guillotine. Gourcuff ne joue pas demain. Je dis, mais coach, qu'est-ce que vous me racontez? Non, je m'en fous, je veux rien entendre. J'ai pris ma décision, Gourcuff joue pas demain.
À ce moment-là, les joueurs se disent, mais ce sélectionneur est complètement fou. Johan Gourcuff, que le sélectionneur qualifie dans son journal d'autiste et de con. Le documentaire retrace finalement la guerre ouverte entre le sélectionneur et son capitaine, notamment lorsque Patrice Evra souhaite s'excuser en conférence de presse de l'image renvoyée par la France après cette grève. Il est alors censuré par Raymond Domenech.
Tu l'as fait ta connerie. Hein, t'as été le leader, t'as été celui qui a imaginé ce truc-là, mais bravo. Maintenant, tu crois que je vais accepter de m'asseoir à côté de toi pour que tu t'excuses? Peut-être même que tu dises que c'était de ma faute, si tu veux. Hein. J'ai dit, écoute, t'as dit assez de conneries comme ça, reste tranquille.
Netflix dresse finalement, au-delà de la catastrophe de Naïsna, le portrait d'un sélectionneur isolé de tous, de joueurs, de médias, d'attachés de presse, un homme au courant de rien. Domenech dit d'ailleurs, avant la grève, quelque chose se prépare, mais quoi? On sent l'odeur du complot. Après visionnage, l'ex-sélectionneur a dans un communiqué dénoncé la vulgarité et le sensationnalisme de celui-ci, qu'il a vécu comme un viol de son âme, accusant Netflix d'avoir trahi sa confiance.
Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. On va profiter justement de ce documentaire et de la personnalité de Raymond Domenech qui en ressort pour se poser une question. Les GG, un entraîneur ou sélectionneur peut-il détester ses joueurs? Julien.
Il peut les détester, mais on peut pas avoir. Moi, je pense qu'on peut pas avoir de résultats si on déteste vraiment ses joueurs.
Jérôme.
En tout cas, moi, je peux pas. Enfin, je me voyais pas manager des garçons que j'aime pas. C'est pas possible, a priori. Après tout ça, ça peut effectivement exister, mais pendant l'activité, non, pour moi, c'est pas possible.
Simon.
J'ai envie de te répondre oui, mais c'est plus. T'es pas obligé de les aimer.
Ouais,
les détester, ça devient
t'es
compliqué.
Pas obligé de les aimer,
oui,
quand tu les
détestes. Pascal.
Ponctuellement, oui. Durablement, non.
Très bien. On va développer tout ça. Juste, je vous donne pour l'instant le résultat du sondage aussi, où eh bien, le oui l'emporte pour le moment à 73%. On verra d'ici la fin de ce ring si l'opinion a changé sur les réseaux sociaux. Pascal, j'ai envie de t'entendre évidemment sur, sur ce thème. Sur ce thème.
Tiens donc.
Tu souris. Ouais. T'as apporté un petit peu de nuance entre ce oui et ce non.
Oui, mais après c'est du ressenti personnel. Après, moi, je veux pas tomber sur Domenech, même si je l'ai eu comme entraîneur. Mmh. Faut savoir que quand Domenech débute, c'est dans les années 80, je joue à Mulhouse et c'est mon entraîneur. Faut savoir aussi que Domenech, c'est l'entraîneur qui, alors que j'avais signé 2 ans, alors que je jouais tout le temps la première année, a décidé un jour, arbitrairement, que pour la seconde saison, je m'entraîne tout seul sur un terrain stabilisé avec un ballon.
T'es scorpion peut-être.
Non, je suis vierge, donc j'ai pas subi les affres de l'astrologie. Voilà, j'ai pas à me plaindre du temps de jeu que j'ai eu avec Raymond Domenech. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon prochain bouquin. Je savais pas qu'il faisait un reportage sur Netflix à son sujet.
Timing parfait.
Mais en fait, entre, je prends 2 entraîneurs que j'ai eu, c'est-à-dire Domenech et Roland Courbis. Il y en a un qui m'a beaucoup inspiré et l'autre qui m'a pas inspiré du tout. Voilà.
On après, vous laisse deviner lesquels.
Je vous laisse deviner. Voilà. Donc non, ce que je veux dire, c'est que durablement, quand vous managez des hommes, après c'est ce que vous avez au plus profond de vous. Aimez-vous les hommes, oui ou non? Quand on fait ce métier, j'ai tendance à dire oui. Tu t'adresses à un collectif, t'as envie de les aimer, t'as envie de leur donner le maximum. Ça veut pas dire que tu définis pas un cadre très strict pour l'évolution collective et individuelle de cette équipe. Mais oui, tu les aimes, tu les comprends, tu es avec eux. Tu es pas contre eux. Mmh. Parce que dès lors que tu es contre eux, ou si tu es tout le temps contre eux, ben fatalement, tu arrives à un clash tel que celui-ci. Et j'aimerais dire en plus que là, il s'agit d'une compétition, la Coupe du Monde, des meilleurs joueurs français que tu sélectionnes intégralement.
Bien
c'est
sûr.
Pas comme dans un club où tu hérites de joueurs que tu ne connais pas ou qui sont les joueurs recrutés précédemment. Donc j'ai presque envie de dire qu'en termes de cohésion, ça peut pas exister. Et d'ailleurs, avec ensuite Laurent Blanc puis Didier Deschamps, ça n'est jamais plus arrivé, une telle mésentente.
Julien.
Non, une telle mésentente, mais ça ne pouvait pas arriver. On a atteint le sommet ou le fond, ça dépend comment
Le fond,
plutôt le fond. Mais Laurent Blanc, il a galéré quand même avec une partie de son groupe à un moment donné.
Mais non, ton ressenti à toi de coach, t'as coaché en Fed Cup évidemment, Julien. On n'est pas obligé d'aimer, mais de la détester.
Alors. Ce que je disais en préambule, c'est que pour vraiment avoir des résultats très hauts et très bons et surtout dans le temps, je vois pas comment c'est possible si on déteste son équipe, si on déteste humainement les joueurs de son équipe. Après, quand je me mets à la place de Domenech sur certaines choses, alors il est fautif, Pascal l'a rappelé, parce que c'est lui qui a constitué son groupe, donc il connaît, normalement il est censé connaître la personnalité de chacun.
Ouais, c'est pour ça que quand il dit dans tout ça, avec Patrice Evra, il y avait des fautes dans les... Mais mec, c'est toi qui les as choisis. Ils ont c'est pas changé du jour au lendemain.
Voilà, là, soit tu fais une table rase et tu prends que des mecs avec qui tu t'entends bien et tu penses que le groupe va bien vivre. Après, ça tout dépend. C'est-à-dire que quand t'es coach et que tu t'investis énormément avec le staff et que en face de toi, t'essayes de leur inculquer certaines choses, t'essayes de leur faire comprendre certains messages, t'essayes de leur faire comprendre l'importance du maillot de l'équipe de France, t'essayes de leur faire comprendre pourquoi être uni et comment le collectif va faire la différence, et qu'en face de toi il y a rien. T'as aucun retour, on te donne rien, ils donnent rien au staff, c'est que tout pour leur gueule, etc. Ben, je comprends qu'à un moment donné,
tu t'en viennes à détester.
Mais est-ce avéré qu'ils étaient tous pour leur gueule lors de cette Coupe du Monde-là? C'est ça le truc.
Pascal, je fais pas une généralité.
Moi, je crois qu'il y a un principe fondamental, c'est que quand tu es entraîneur, sélectionneur d'un collectif, bah souvent ton ego il faut que tu l'abandonnes.
Je suis complètement d'accord avec toi, Pascal. C'est un des
ton ego, Pascal, c'est quand t'es sélectionneur.
C'est le truc le plus important que j'ai appris quand j'ai été capitaine, c'était me dire, enfin, ok, moi j'ai reçu suite à certains choix de sélection et tout des messages en privé de certaines joueuses qui n'acceptaient pas les trucs. J'ai mis mon ego de côté entre guillemets. Je m'en fous. C'est parce que je pense que c'est le mieux pour l'équipe. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure des années, quand t'essayes de faire passer des messages et que tu que de temps en temps il y a en face de toi des joueurs ou des joueuses qui ne comprennent pas et qui tu peux mettre ton ego de côté, etc., mais à un moment donné ça en devient
T'en vas,
exactement.
Si ça arrive à ce moment-là,
ouais,
tu t'en bats.
Ouais, t'as raison.
Si t'es pas en phase avec les choix qui viennent à toi et le parterre de joueurs que tu dois sélectionner, tu te retires, t'y vas pas. Pour moi, l'erreur aussi, elle est de pas mettre ton passé de côté. Il y a plus que l'ego. Il y a des choses que tu dois mettre de côté. Et quand tu es dans cette situation-là, Pascal, tu es bien placé pour le savoir, tu vas chercher les leviers pour faire réagir un groupe. Il a condamné certains gars qui n'avaient absolument pas le caractère, l'idée, l'ego qui veut bien dire dans ce reportage, parce que des garçons qui avaient envie de briller pour l'équipe de France, qui avaient envie de porter haut ses couleurs, il y en avait déjà dans ce groupe à l'époque. Mais sauf qu'il leur a tourné le dos, il les a sacrifiés aussi à certains endroits, et notamment lors des déclarations. Moi, pour avoir été très proche d'un des joueurs qui est à Naïsna, il a fracassé les garçons sans jamais leur donner d'explication. Il ne s'est pas tourné vers ces garçons-là pour avoir une espèce de réaction. Il a continué à communiquer et à s'auto-détruire. Et
auto-détruire. Ouais, mais Jérôme, quand la maison
se tient en provocateur, brûle,
la provocation, elle a ses limites, parce qu'elle est assez
grosse. Mais parce que moi, j'ai envie de te retourner la question que tu nous poses, Flora. Est-ce que tu peux gagner avec des joueurs qui te détestent? Parce que
c'est l'œuf et la poule, Simon. Oui, qui déteste
J'étais jeune journaliste pour la Coupe du Monde 2010. On bossait.
Tu l'es toujours, jeune journaliste.
Oui, mais dans une chaîne d'info, et on avait des émissions régulières. On suivait seconde par seconde ce qui se passait. Il faut se souvenir quand même que on arrive de 2006 où on va en finale, mais où t'as cette espèce de narratif où en fait Zidane, Makelele et consorts, on dit bon, écoutez, le sélectionneur c'est un pimpin, on va se débrouiller tout seul. Et a priori, c'est un petit peu ce qui s'est passé, cette espèce d'autogestion, comme on en a connu d'autres dans d'autres compétitions, dans d'autres sports. Donc, si tu veux, Domenech, tout finaliste de la Coupe du Monde qu'il est, cet accomplissement n'est pas porté à son crédit. Ça reste une sorte de guignol, voilà. Et on est comptable.
Mais
nous
c'est
aussi,
malgré tout pour ça que la fédération le maintient quand même.
Non, mais j'exagère, Pascal. Mais on a tous envie d'y croire au moment où on arrive à Naïsna. Mais je veux dire, c'est quand
sachant
même pas...
qu'il y a eu l'Euro 2008 entre temps aussi, quand même.
Oui, mais souviens-toi, il faut expertiser un petit peu détruire les choix de Domenech. Il emmène un Thierry Henry qui est une légende de l'équipe de France
sur le banc
et qui n'aura pas été capable à un moment donné de dire mais les gars, vous êtes des fous là, les mecs, la nouvelle génération. Mmh. Vous allez descendre de ce bus, vous allez vous comporter comme des gens responsables. Donc
après, moi, je pense que Thierry Henry, à l'image de William Gallas, il y avait des pour le coup, on parlait d'ego. Certains aussi ont mis leur ego en premier en se disant moi,
j'aurais
je ne joue pas.
J'aurais dû jouer.
On était dans la cour de récré parce que les joueurs venaient mettre des pichenettes sur la tête d'un Johan Gourcuff qui prenait toute la lumière, qui était la sensation du football français, à qui, si tu avais donné les clés avec des mecs qui jouaient le jeu autour de lui, tu vois, tu aurais pu le responsabiliser et transformer ça en grand joueur, en joueur important. Mais il y a des tauliers qui n'en voulaient pas et qui n'aimaient pas ce jeune joueur.
Ce personnage. Bon,
alors, donc, Domenech, il a ses responsabilités, mais dans cette histoire, je pense qu'il a morflé. La forme, elle est désastreuse, elle est catastrophique. Je pense qu'il s'est... Il a été très naïf de se dire « Tenez les gars, mon journal intime, mais en revanche, je vous ai surligné des passages, ça, j'aimerais que... » Bon, il a été... Je pense que ça ment...
Il a donné son journal...
Il l'a vendu, en plus.
Documentaire manque un petit peu de contrepoids. Je pense que ça manque de joueurs de l'équipe de France qui pourraient venir... Oui, et je pense que Domenech, il a voulu faire ça non pas pour charger les joueurs et dire c'était tous des petits cons, pardonnez-moi l'expression, mais pour dire moi aussi j'ai beaucoup souffert. Et je pense que c'est ça qui inspire sa démarche. Moi aussi je suis meurtri de tout ça. Moi aussi j'en ai gardé une blessure à vie. Mmh. Et t'as un effet pervers qui nous fait dire il a pas lâché l'affaire, il en remet une couche, il remet une pièce dans la machine, il peut vraiment pas les saquer. Et je trouve que la perception est un petit peu diluée. Et j'aimerais bien moi entendre les joueurs de l'équipe de France
à l'époque. Ils n'ont pas envie d'en parler.
Ouais, c'est pas pour rien que certains n'ont pas parlé.
Domenech a ses responsabilités, mais pourquoi on n'a jamais entendu un joueur dire franchement on était des petits cons, on aurait dû descendre de ce bus. On regrette.
Les joueurs. Enfin, quand on regarde le documentaire. Moi, je me souvenais pas qu'on arrivait en 2010 à la Coupe du Monde, en gros, en rôle de favori, qu'on pouvait la gagner. Ouais. On s'est qualifié par la petite porte, etc.
Ouais, et là, on avait quand même une génération de qualité.
Tu regardes l'effectif, oui.
Sur le documentaire. Les Evra, les Galas et compagnie, mais les joueurs, moi, j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule parce que si t'as vraiment envie de gagner la Coupe du Monde, etc., tu te comportes pas comment ils se comportent. Et la grève du bus. Moi, il y a un truc, mais ça, c'est ma perception d'ancien joueur dans un sport individuel. On est quand même à 2 jours ou 3 jours du dernier match.
Ouais. Qui va décider de ton avenir dans la Coupe du Monde?
Sportivement. T'as déjà fait un match nul et une défaite. Ta grève, c'est de pas aller à l'entraînement. Donc en fait, tu te tires toi-même une balle dans le pied.
Oui, mais
on va pas s'entraîner. On n'a pas besoin d'aller s'entraîner. On est tellement bon, on va se faire la grève.
Mais les gars, ils sont pas dans ces considérations-là. Ils sont dans la considération
qu'ils sont hors sol.
Et que Anelka est victime d'une injustice.
Ils ont complètement
donc ils veulent défendre leurs coéquipiers. C'est très facile de parler parce qu'on n'est pas à sa place à Domenech. Et tout à l'heure, quand Simon disait pas trop de bien de Domenech. Domenech, il a quand même un savoir, il a quand même un palmarès. Ça, c'est indéniable. Mais sur le coup, moi, j'ai pas managé à sa hauteur. Mais j'ai managé des hommes, malgré tout. À un moment donné, faut faire consensus. Et il aurait, à mon sens, même s'il dit qu'il s'en fout, il aurait dû tout faire pour ne pas virer Anelka. Parce que tu crois que ça n'arrive pas partout, y compris pour les entraîneurs les plus populaires, les plus aimés des joueurs de la planète, de se prendre enculé, machin, ça arrive à tous les coachs, à tout le monde,
Mais
t'es pas dans un vestiaire de football, Julien.
T'es au tennis, au foot, c'est pas ça. C'est pas normal.
Au foot, c'est la jungle.
C'est pas
normal, je dis que ça arrive.
Ben oui, mais c'est comme les joueurs de foot qui font que gueuler auprès des arbitres. Il y a que dans ce sport où il y a pas un coup franc qui est joué au bon endroit. Il y a que dans ce sport.
Ça a un manque de respect total
envers la hiérarchie. Le seul manque de respect que les joueurs ils ont, c'est qu'ils vous voient
le coach. C'est le seul truc. Ils vous voient le coach.
Mais si Anelka a vraiment dit ça, ce qui a marqué dans la une de l'équipe.
Mais il voulait s'excuser auprès du sélectionneur.
Non, mais qui dégage, c'est normal. On ne peut pas parler comme ça à un sélectionneur de l'équipe de France. Par contre, s'il n'a pas dit ça, là, c'est pas pareil. Et que s'il
a dit qu'une partie,
et que s'il a dit,
tout à fait
et
dit
que
ça,
s'il mais... a dit, s'il a que dit, bah, fais-la ton équipe de merde, s'il a dit que ça, oui, là, je suis d'accord, ça mérite pas pour moi une exclusion d'une Coupe du Monde.
Bah, il y avait la sanction imminente, il l'a
mais
sorti.
S'il
à
a dit ce qui est sorti dans l'équipe,
il y a une partie, on va pas répéter les insultes, il y a une partie des insultes qui est
malgré tout sortie.
La première partie, merci Pascal. Je ne redirai pas.
La problématique aujourd'hui, c'est qu'ils savent même plus dire ce qui s'est vraiment dit ou pas.
Oui, c'est ça. Ils ont fait la même version. C'est un change de discours aussi.
Moi, je trouve juste que, il manque profondément de 16 ans après, quoi. Mais excusez-vous d'avoir fait ça. Mais Domenech ou les joueurs.
C'est surtout... là qu'on voit que la plaie est quand même encore très à vif, que ce soit pour le sélectionneur, les joueurs, et même pour nous, suiveurs, parce que ce documentaire est vu par tout le monde.
Le mec de la presse, Manardo.
Oui.
Tu le vois que
Escalette, Manardo, Roselyne Bachelot, on en parle de leur responsabilité, de la façon dont ils ont géré tout ça.
Quand il y a la conférence de presse où il y a Escalette et Evra qui doivent parler sur la truc. Et là, t'as Manardo qui est le chef de la presse. Il sait pas
qui va parler. Qui va parler et
qui va dire quoi. Mais là, on est où?
C'est dire aussi le.
Il y avait personne à bord, il y avait pas de capitaine à bord.
C'est aussi pour ça qu'on en arrivait juste là. On va juste prendre Grégoire qui est avec nous au 32-16. Salut Grégoire.
Bonjour les grandes gueules, comment ça va?
On a déjà bien débattu. Si on revient sur le sujet initial de ce ring avec toi, Grégoire, est-ce que tu penses qu'un entraîneur peut détester ses joueurs?
Bah pour moi c'est une réaction humaine, donc oui, pour moi c'est possible. Maintenant, quand on est professionnel, on peut pas se permettre de faire des choses comme j'ai entendu hier, puisque j'ai regardé le reportage. On doit garder ses nerfs, on doit garder le contrôle. Et alors je vais peut-être aller à l'encontre de beaucoup de chroniqueurs, mais moi pour moi il y a plusieurs fautifs dans l'histoire de Nicena. Par contre, il y a qu'un seul responsable, c'est Raymond Domenech. Raymond Domenech, depuis 2006, c'était très compliqué. En 2008, il nous a offert une belle clownerie. D'ailleurs, j'apporte mon soutien à votre collègue Estelle, hein, parce que j'ai regardé hier. Je pense qu'elle a dû souffrir aussi de cette situation. Et on a gardé ce coach.
C'est aussi la faute de la fédération, du coup.
Bien entendu.
Et la faute de la fédération qui a choisi de maintenir Raymond Domenech en poste. Hein.
Et moi, quand je regarde le reportage hier, en fait, il a voulu se farcir Nicolas Anelka. Il est tombé sur un os. Et derrière, les joueurs ont été solidaires en fait de Nicolas Anelka. Contrairement au coach, où lui, il est resté cloîtré dans sa chambre et il est resté vraiment à l'écart de toute problématique. Donc pour moi, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Raymond Domenech. Maintenant, le foot n'est pas un monde de bisounours. Il y a tous les coachs n'aiment pas tous leurs joueurs, c'est pas vrai. Maintenant,
c'est vrai dans tous les sports, sans doute aussi. Hein.
Et c'est vrai dans tous les sports. Il faut faire des concessions parce qu'on est dans un monde professionnel, il faut rester pro. Et ce genre de situation ne serait jamais arrivé avec un Didier Deschamps, des grands noms du football comme ça serait jamais arrivé. Et pour moi, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Raymond Domenech.
Merci beaucoup Grégoire d'avoir été avec nous ce matin dans les GG. Un débat évidemment qu'on pourrait faire encore tous les matins avec tout le monde, tant ça fait parler. Il est 10h28 sur RMC. Est-ce qu'on a le résultat du sondage? Tiens, 70. Ah, ça a baissé un petit peu, 70% finalement pour le oui. Les GG du sport reviennent dans quelques instants avec Captain Pinot qui arrive pour nous parler de Paul Magnier. Et bien sûr, il y aura juste derrière le vestiaire des GG. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Missy. Il est 10h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC avec Pascal Duprat, Julien Beneteau, Simon Dutin et Jérôme Pinault qui va tout de suite passer en mode captain.
RMC, Captain Pinault met le brassard.
Un cri du cœur, un cri d'amour même tout de suite à venir de toi Jérôme pour un Paul, mais pas Paul Sexas.
Eh oui.
Non, ce serait trop simple, mais pour Paul Magnier qui a cartonné dans ce début de Tour d'Italie avec 2 victoires d'étape. Oui, il ne sera pas sur le Tour de France le mois prochain, mais il a une vraie personnalité atypique, à l'opposé presque de celle de Paul Sexas et qui mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui.
Tout à fait Flora, comme tu l'as dit, il est jeune, il vit dans la région Rhône-Alpes, il domine le cyclisme international et pourtant... C'est pas Paul Sexas, c'est pas ce phénomène-là, on va parler d'un autre phénomène. Celui-là, il mesure 1m87, il pèse 70 kilos, il a 22 ans, il est taillé comme un troisième ligne, il a la tronche d'un acteur américain, et pas étonnant puisqu'il est né à Laredo, au Texas, avant, 3 ans plus tard, de revenir vivre en France, à Grenoble, puis Besançon. Vous la voyez, la belle histoire. D'abord, Paul Magnier, c'est d'abord en 2025, l'an dernier, le plus gros scoreur français sur une saison depuis la création du World Tour. 19 victoires l'an dernier. Il est actuellement à 27 victoires en 2 ans et demi seulement chez les professionnels. Puisqu'il est déjà sur ce Tour d'Italie qui se déroule actuellement, à 2 victoires d'étape, il a porté le maillot rose et il porte actuellement le maillot préféré de Simon Dutin, le maillot cyclamen. Ensuite, ce que Paul Magnier a de plus que les autres et ce qui fait de lui potentiellement une rockstar, c'est sa gueule de beau gosse, sa cool attitude. Ce garçon-là est texan. Il a fait du VTT.
Pinot. C'est le nouveau Pinot.
Il a fait du cyclocross, il a fait du BMX. C'est un garçon qui a déployé ses ailes sur la route depuis seulement 5 ans. Il est dans l'air du temps, le polo, avec sa gueule d'ange, aussi à l'aise sur les pavés du Nord que dans les sprints massifs, aussi à l'aise en interview, d'après-course, en anglais, en espagnol, en italien. Voilà qui change de nos sacrés français. Il est aussi très à l'aise, et là, il va m'en vouloir, mais on sait tout dans cette équipe, sur le dance floor. L'an dernier, en Chine, a priori, il avait fait forte impression au soir de sa 5e victoire d'étape. Si on devait le comparer à une rockstar du cyclisme moderne, très vite, je vous dirais Peter Sagan.
Ah ouais.
Peter Sagan, le fantasme, l'exubérant, l'incontrôlable, l'inqualifiable, celui qui joue avec son vélo, qu'il pilote aussi. Paul, c'est pareil, il sait prendre des risques, mais n'en fait pas prendre aux autres. Celui qui, comme Peter Sagan, dès qu'il gagne, il a une signature, un geste, une célébration, comme diraient les jeunes. Ce n'est pas une moquerie, c'est une façon de s'exprimer, de faire le show, de casser les codes. Tom Pidcock aussi, lui, est passé par la Trinity. Ils ont un petit point commun tous les deux. Ils aiment aller vite, ils aiment prendre des risques. Pas surprenant que l'on retrouve peut-être demain ou après-demain, à l'instar de l'anglais, Paul Magnier sur le circuit. Paul Ricard au volant de son bolide. Depuis son arrivée au sein de cette équipe Soudal Quick-Step, puisqu'il est bien dans cette équipe belge, on le compare très souvent à Tom Bonnen. Alors même si Paul, lors d'un reportage qui lui a été consacré sur la chaîne L'Équipe, dit « Moi, je connais plus Jules que Tom Boonen. N'empêche que la ressemblance avec le champion belge, le charisme, la puissance, une gueule, une facilité à parler, une certaine classe et puis une nonchalance. Alors de la nonchalance, ça le rend très attachant. Quand on demande la semaine passée à son directeur sportif, David Ebramati, qu'est-ce que tu penses, comment peux-tu caractériser Paul Magnier, il nous a dit « Machiavello ». Voilà, la classe. Ne comparez Paul Magnier à personne parce qu'il ne sera ni l'égal d'un autre et ni encore moins dans l'ombre d'un Paul Sexas. Paul Magnier, il trace sa route, il est différent, naturellement différent. Pas de personnel, pas de jeu d'acteur, ni de jeu de dupe, surtout pas. Juste un jeune surdoué dans l'air du temps avec ses valeurs et surtout issu de cette génération de Français cyclistes décomplexés. Alors, il est déjà le cycliste français le plus suivi sur les réseaux. Ne cherchez plus, le prochain tour français qui gagnera le Tour de France s'appelle Paul Sexas. Mais la prochaine rockstar du cyclisme international s'appelle Paul Magnier. Toutes les marques vont se l'arracher. Toutes les stars vont vouloir poser avec lui. Les jeunes filles se marier avec lui. Il s'appelle Paul Magnier, born in Texas, made in France.
Waouh! Merci, Captain Pinot.
Il a une petite plume, le.
Oui, mais il a l'impression qu'il a bossé. Il a bossé ce matin.
Un plumeau.
Bah, c'est un peu plus difficile pour écrire un plumeau.
Hein. Mais ça sert pour le crâne, c'est pratique. Parlons-en du crâne.
Alors, les gars, en plateau, Paul Magnier. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Paul Sexas, évidemment, sur AMC. Paul Magnier arrive aussi comme une balle avec ses 2 victoires sur le Tour d'Italie. Simon, je me tourne vers toi. Est-ce que à ce potentiel rockstar, tu y crois?
Alors, je m'attendais pas à ce que Jérôme insiste sur quelque chose qui, pour moi, est très important, en tout cas marquant pour le public, c'est qu'il a une gueule, tu l'as rappelé. Mmh. Il a une belle gueule, il a un beau sourire, un beau regard. Et bon, c'est sans faire injure au peloton cycliste, mais t'es pas habitué à voir des mecs.
Jonas Vingegaard, t'aimes pas.
C'est pas, bon, aussi, non, mais c'est vrai que c'est important parce que, les sprinteurs, ils sont quand même limités. Ils mangent pas à tous les repas dans les courses cyclistes. Et je pense que, Jérôme l'a rappelé, on pourrait même convoquer un Cipollini dans cette histoire parce que quand t'es sprinter t'existes aussi par autre chose que tes victoires. Cela étant dit, le principal c'est quand même d'être une menace pour tous tes concurrents et lui il débarque comme un chien dans un jeu de quilles et il rince des mecs qui avaient l'habitude de gagner. Un Jonathan Milan qu'on nous présentait encore il y a un an comme le meilleur sprinter, le futur du sprint, il lui a mis la leçon et en plus, dans un style un petit peu plus délié que le gorille italien, là, tu vois.
La classe.
T'as l'impression qu'il est moins sur la puissance, mais j'entendais les commentateurs du Giro, là, lors de sa deuxième victoire d'étape. les concurrents veulent déjà se mettre dans sa roue au niveau des arrivées. Ça te dit quelque chose de la menace, de la crainte qu'il inspire. Ouais. Exactement. Et Jérôme l'a rappelé, moi j'ai pas grand chose à ajouter, tout ça avec une forme de sérénité. Il faut rappeler qu'il a été biberonné quand même dans ce qui se fait quasiment de mieux encore maintenant dans le cyclisme pro, la Soudal, avec son expertise et la façon dont ils ont de nourrir leurs jeunes champions et de les faire arriver au très haut niveau. Donc on ne peut que se réjouir parce que c'est un, ça a l'air d'être un bon mec.
Il a l'air d'avoir de la sincérité en plus, dans, de la spontanéité.
Très cool. Il va nous permettre en effet d'espérer pouvoir gagner sur tous les tableaux désormais, parce que c'est que ça, ça sera pour les grands tours, pour les arrivées un petit peu plus accidentées. Et chaque fois que ça arrivera à plat, on aura un manier qui pourra prétendre à la victoire.
Alors justement, c'est important que tu parles de Paul Sexas aussi. Pascal, j'ai envie de t'entendre là-dessus aussi, parce qu'on sait que le paysage médiatique français, on a tendance à se focaliser sur une star, sur de tout miser sur une personnalité qui peut réussir, donc Paul Sexas en l'occurrence dans le monde du cyclisme aujourd'hui. Paul Magnier, est-ce qu'il risque pas d'être un petit peu dans l'ombre? En plus, il s'appelle Paul aussi, peu effacé. Comment on arrive aussi à exister dans ce paysage médiatique?
J'ai l'impression qu'ils font pas le même métier, moi. Si y en a un, il est sprinter.
C'est exactement ça.
Donc,
dans la vision des gens un petit peu généralistes, si on n'est pas spécialiste vélo, etc. Tu vois ce que je veux dire?
Attention, l'autre garçon, Paul Sexas, ça a l'air d'avoir aussi la tête bien faite. Il donne
moins
pas la
charismatique,
même image.
Moins charismatique,
il est vraiment serein, il est sûr de sa force. On sent qu'il est convaincu qu'il va y arriver, qu'il n'y a rien qui peut le déboulonner. Celui-ci, tu m'arrêtes si je me trompe, Jérôme, mais en bien le regardant à l'issue des sprints, moi ce qui m'a fasciné, tous les sprinteurs remercient ceux qui les lancent tout le temps, parce qu'il y a des un sprint, c'est un train de coureurs et les derniers l'amènent jusqu'à les 200 mètres de la ligne d'arrivée. Mais lui, j'ai trouvé ça fantastique. Il a une générosité dans son action à la fin de la course quand il a gagné envers ses coéquipiers. Il les enlace. Il en finit pas de leur sourire, de les remercier. Moi, je trouve ce gamin intriguant, quoi, par sa générosité.
D'autant que cette année sur le Giro, il est lancé par Jasper Stuyven. Jasper Stuyven, ça parle pas du grand public peut-être, mais c'est quand même un garçon qui est belge dans une équipe belge qui a gagné Milan-San Remo. Ouais. Qui est l'un des coureurs les plus expérimentés, il le lance sans arrière-pensée.
Et je peux vous dire que
il a plaisir à le faire. Et Paul le remercie. Mais pour un Belge, dans une équipe belge, avec un espèce de palmarès, un statut comme à Stuyven, c'est qu'il a énormément confiance et qu'il a déjà compris que l'autre, c'est l'avenir.
Crack, ouais.
Parce que demain, on va se battre pour lancer le sprint à Paul Magnier. Ce qui est une très bonne nouvelle aussi pour Paul Sexas, c'est que dans les années à venir, Paul Magnier sur le tour, ça va enlever une sacrée pression des épaules de Paul Sexas dans les premières étapes, parce qu'on va se focaliser évidemment
lui, ouais,
sur le sprint et l'autre Paul Magnier. Donc c'est pour nous tout bénef. On n'oubliera pas non plus les Lini Martinez et autres, mais Paul Magnier a aussi cette gueule, comme tu le dis, Simon, mais aussi cette faculté à aspirer le regard, à attirer les gens vers lui. Ouais, ouais. Là, dans cette équipe Quick-Step, on a eu déjà, la semaine passée, je l'ai dit, David Ebramati, ils sont complètement amoureux du personnage. Parce que le garçon est sympa, parce qu'il gagne, parce qu'il prend ses responsabilités. Et je donnais l'exemple en antenne tout à l'heure. Avant-hier, il n'a pas pu gagner l'étape. Il a chuté, il a dû mettre pied à terre à 400 mètres de la ligne. Par respect pour le travail qui a été fait, il est remonté sur le vélo. Il a relancé le sprint, il vient faire troisième. Parce qu'il veut l'emmener à Rome, ce maillot Cyclamen. Pourquoi? Pour les autres. Quelque part, pour lui, c'est important, mais aussi parce que le maillot, le maillot du sprint, moi, j'ai fait ce Giro aux côtés de Marc Cavendish. Marc Cavendish n'avait pas besoin de ramener le maillot rouge à nous, c'était à Florence. C'était pas très important. Mais pour nous, ça l'était. Donc, il s'est battu jusqu'au bout pour ramener ce maillot. Paul est déjà dans cette démarche-là. Il a que 22 ans et c'est seulement sa troisième saison chez les professionnels. Ça classe le bonhomme.
C'est ça qui est fort.
Éclaire-nous quand même juste sur quelque chose, parce que quand je me suis renseigné sur Paul Magnier, il rêve d'être champion du monde.
Bien
à
sûr.
Son tour, il parle beaucoup de Mathieu Van Der Poel, c'est aussi s'identifier
un petit peu. On aurait pu citer un peu dans la
exactement.
Classe, dans le style, bien sûr.
On peut être, alors pardon de la question un peu basique, on peut être champion du monde en étant sprinter.
Bien sûr, Marc Cavendish l'a été, Mario Cipollini l'a été.
Peter Sagan.
Alors, moi, c'est ce que j'aime à comparer Peter Sagan. parce que c'est un garçon qui, Paul Magny, a fait troisième d'une classique des Alpes chez les juniors, par exemple.
C'est un garçon qui a ses capacités
alors,
là.
C'est pas
aussi
un grimpeur, attention, c'est pas ce que je dis, mais si c'est dur, c'est pas très grave. Un jour, sur Milan-San Remo, on entendra parler de Paul Magny. C'est un garçon qui est capable de monter les capis, de monter quelques petites bosses. Et surtout, il a échoué il y a trois ans, il y a quatre ans maintenant, lorsqu'il était espoir, il fait troisième du championnat du monde. Il a été champion du monde dans d'autres catégories chez les jeunes, dans d'autres disciplines. Mais ce titre-là, c'est sa culture US. Même s'il n'y est pas resté longtemps, le titre de champion du monde aux États-Unis, c'est quelque chose qui parle.
Ça me fait penser du coup un petit peu à nous, notre champion du monde qui a été Julian Alaphilippe. Est-ce qu'on peut aussi faire un petit parallèle entre les deux?
Il est dans la bonne équipe.
Ouais.
Il est dans la bonne équipe. Moins fougueux, moins peut-être.
Ça peut être un peu la même personnalité, le même profil, le même.
C'est pas le même profil parce que Julian était capable de nous faire penser qu'il pouvait peut-être un jour gagner le Tour de France, et ça a été tout près d'être le cas il y a quelques années. Il est moins puncheur, il en gagnera peut-être moins des championnats du monde, parce qu'il faudra quand même pas oublier que le parcours s'adresse souvent à ceux qui dominent le peloton, et en ce moment on est plus sur des dominateurs puncheurs, grimpeurs. Mais il suffira peut-être que d'une fois, on se rappelle du titre de Peter Sagan à Doha au Qatar, ben sur un circuit comme ça avec un peu de vent et des sprinteurs, Paul Magny sera l'un des grands favoris, et ça viendra parce que il faut donner à manger à tout le monde, et les stars dans le sprint, il y en a aussi en ce moment.
Quel avenir on a donc dans le cyclisme
On a beaucoup de chance.
On va
chez les garçons et chez les filles, parce que derrière Pauline Véran-Prouvot, il y a la petite Bunel, il y a quelques championnes et champions. On a une génération qui est quand même
On est tranquille pour quelques années. 10h44 sur RMC. Les GG vont remonter le temps dans quelques instants pour se demander où on peut placer cette équipe du PSG qui a remporté un cinquième titre d'affilée de champion de France de Ligue 1. Et juste après, à 11h, on ouvrira le vestiaire des GG pour parler de la retraite, de l'après-carrière, de la petite mort, comme certains l'appellent. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. 10h47 sur RMC, merci d'être avec nous dans les grandes gueules du sport. On est avec Simon Dutin, Jérôme Pinault, Julien Beneteau et Pascal Dupraz. On va remonter le temps un petit peu. Cette semaine, le Paris Saint-Germain a décroché le 14e titre de champion de France de son histoire, le 5e d'affilée, grâce à sa victoire 2-0 face à Lens. Avec ce 5e titre de suite, les hommes de Luis Enrique ont ainsi dépassé l'OM du début des années 90 et le Saint-Etienne de la fin des années 60. Un PSG record donc, mais toujours devancé par une équipe en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, qui avait réussi entre 2002 et 2008 à remporter 7 titres de champion consécutifs.
C'est terminé, l'Olympique Lyonnais est champion de France pour la 7e saison consécutive. C'est évidemment historique, c'est magnifique, et c'est d'autant plus beau que cette saison a été dure et que le challenger des Lyonnais jusqu'au bout, les Girondins de Bordeaux, ont été admirables.
Une équipe lyonnaise qui, à l'époque, dominait de la tête et des épaules le championnat français, tout comme l'OM avant, et Saint-Etienne encore plus. Le dernier titre, d'ailleurs, de l'Olympique lyonnais était le 17 mai 2008. Nous sommes le 17 mai, aujourd'hui. On ne choisit pas les sujets au hasard.
Non, mais en 2009, on se souvient que cette série avait été interrompue par les Girondins de Bordeaux.
Oui, c'était important de le préciser.
Qui vont passer une nouvelle saison en National 2, c'est également important
à préciser. Tout à fait, avec l'échec de la montée dans la nouvelle Ligue 3, donc désormais qui n'est plus le National. Le PSG entre donc dans le cercle très fermé de ses équipes ayant écrasé le championnat. Mais les GG, je vous pose cette question ce matin. Où placeriez-vous cette équipe parisienne dans l'histoire de la Ligue 1? Évidemment, par comparaison aux autres hégémonies dont j'ai parlé tout à l'heure, où est-ce que vous la placeriez, Jérôme?
Pour moi, c'est la plus belle équipe de football que j'ai vue en Ligue 1 depuis que je regarde la Ligue 1. Elle est au-dessus de tout, parce qu'elle domine son championnat assez aisément, avec une qualité de football proposée qui est exceptionnelle. Peut-être moins de cœur que l'équipe lyonnaise avant, mais il y a aussi le parcours qu'on ne peut pas oublier quand tu poses cette question-là, celui en Champions League, avec un entraîneur qui a la main sur ça.
Je ne voulais pas qu'on dérive, évidemment, sur la Champions League. On va essayer de se concentrer sur la Ligue 1 et de ce qui est fait en Ligue 1, parce que, évidemment, sinon le PSG reste le meilleur club français sur la scène européenne. Mais comment dans la Ligue 1, le fait, là tu me dis que c'est la plus belle équipe, on parle quoi? Sportivement, de ce qu'ils réalisent,
Le jeu est formidable à regarder. Je suis
Lyon,
supporter.
C'était exceptionnel.
Ouais. Lyon, c'était beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur avec des rebondissements.
C'était aussi un collectif Lyon.
Juninho, Essien, des individualités. Et Diarra, le milieu de terrain qu'ils avaient.
À l'époque, j'allais beaucoup au stade, puisque j'allais voir les matchs à Gerland à l'époque. Ouais. Parce que j'étais très copain avec l'un des joueurs. Et Mais l'émotion, je dois la mettre de. C'est le même que tout à l'heure.
C'est le même. Donc, t'as trouvé
Mais c'était.
Bah oui, je pense que j'ai trouvé.
Beaucoup d'émotions.
Soupçonné d'avoir, par l'intermédiaire de son agent, écrit la lettre.
Ouais, le sélectionneur était très habile avec lui à l'époque. Et du coup, aujourd'hui, on voit un football. Enfin, ce qu'on voit sur le terrain, c'est juste magnifique, quoi. Ça va vite devant. Il y a du talent. Tu vois, Désiré Doué, Barcola, Dembélé, des pistons comme Hakimi. T'avais pas ça à Lyon. Alors, t'avais des super joueurs. Il y avait plus un collectif, mais la qualité, la qualité footballistique. Pour moi, est supérieur à
Julien,
aujourd'hui.
Julien, t'as pas l'air trop d'accord.
Si, honnêtement, tout le monde sait que je suis plutôt supporter marseillais, mais le PSG, j'admire ce que fait le PSG. Depuis un an et demi, deux ans, j'admire. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, ils vont être champions pour la cinquième fois de suite. Pour l'instant, Lyon a fait sept fois de suite. Le PSG n'a pas fait ça. Et moi, j'ai le souvenir, je ne sais plus en quelle année c'est. À l'époque, le championnat était diffusé sur une grande chaîne, il était mis en valeur et il y a un dimanche soir, Lyon joue à Lens. Lens était dauphin de Lyon. Et Lyon leur en met 4. Ils mènent 3-0, 4-0. Et en fait, pendant le match, les Lensois étaient en train d'applaudir les Lyonnais parce que ce qu'ils proposaient, c'était exceptionnel. Et je me souviens des commentateurs de Canal+ à ce moment-là. Qui était ébahi par la prestation collective et le milieu de terrain, notamment lyonnais, et la maîtrise, et que ça en était devenu, même pour les téléspectateurs qui n'étaient pas supporters des deux équipes, c'était fort et c'était beau. Donc c'est dur de les hiérarchiser si on met la Ligue des Champions de côté, forcément.
Bien sûr.
C'est vraiment sur la Ligue 1.
Sur la Ligue 1.
Lyon a fait 7 fois de suite. Paris n'a pas fait 7 fois de suite. Marseille n'a pas fait 5 fois. Saint-Etienne s'est arrêté aussi. En même temps, si on reste sur le truc domestique, ils gagnent tout aussi. La Coupe de France, alors pas cette année, mais ils ont gagné un nombre de Coupes de France incroyables.
De la Ligue.
Pour l'instant, ouais, on oublie vite, mais le Lyon des années 2000, c'était exceptionnel comme il jouait.
C'est
exceptionnel.
Ça qui est important aussi, et Pascal, j'ai envie de t'entendre là-dessus, parce qu'il y a la culture de l'instant, évidemment, parce que le Paris Saint-Germain est l'équipe qu'on voit en ce moment dominer la Ligue 1 depuis des années. Mais
et l'Europe.
Et l'Europe aussi, évidemment. Donc forcément, ça influe un petit peu sur notre façon de voir les choses. Mais toi, Pascal, est-ce que c'est cette équipe qui t'a le plus marqué dans l'histoire de la Ligue 1?
Bah, celle de Lyon m'a marqué, celle de Marseille en 90 m'a marqué également. Comme je suis plus vieux que vous, celle de Saint-Etienne, bien au-delà, me marquait parce que c'est celle qui m'a donné envie, avec Johan Cruyff, de jouer au foot. Mais cela dit, oui, en fait, Paris, parce que l'instant, c'est Paris, Paris l'emporterait, si c'était mieux. Ou en tout cas, dans quelques années, il n'y aura plus de débat.
Oui.
Mais cela dit, Lyon de l'époque, si on compare l'impact que Lyon avait sur le foot français à l'époque et l'impact de Paris Saint-Germain depuis que les Qataris sont là, depuis que Paris truste les titres, c'est à peu près la même chose.
C'est vrai qu'il faut le mettre dans la balance, Pascal.
Pareil, hein, parce qu'à cette époque-là, Lyon, son président, son mode de fonctionnement, son mode de recrutement, c'était juste incroyable. Et être sept fois consécutivement champion de France, à partir du moment où ils ont gagné
un titre. Il n'avait jamais été avant. Hein,
c'est ça. À partir du moment où ils ont gagné leur premier titre, ils ont été capables d'en aligner 7 avec une force collective, et avec des individualités telles que Juninho, vous les avez citées, on ne va pas toutes les citer. Donc c'était à la fois beau à voir, c'était d'une efficacité incroyable, avec un président qui lâchait rien, qui incarnait à fond ce club-là. Et moi, la seule petite... ce qui va me faire encore pencher pour Paris, c'est pas que le fait que Paris soit dans l'instant, c'est la transformation du Paris Saint-Germain depuis deux ans qui me fait aller vers Paris Saint-Germain. Franchement, à la fin du match de la qualification à Munich, je ne connaissais pas Désiré Doué, je l'avais jamais pratiquement entendu parler. Ce qu'il a dit à l'antenne prouve à quel point le Paris Saint-Germain résonne aujourd'hui en équipe. Et ça, c'est exceptionnel par rapport à ce que Paris Saint-Germain, même en gagnant des titres en Ligue 1, était il y a encore 2 ou 3 ans.
Bien sûr.
C'était des sommes d'individualité. Ça me fatiguait de regarder le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si à l'époque, je regardais les matchs du Paris Saint-Germain jusqu'au bout.
Ouais.
Aujourd'hui, j'en manque pas une miette.
Simon.
Parce que c'est vraiment l'expression de collectif par excellence.
Ouais. Là où je pense qu'on peut défendre la première position de l'Europe. Enfin, pour répondre à ta question, moi je les mets sur l'étagère du haut, voilà, ouais. Au plafond, en compagnie. En revanche, d'autres équipes, parce que dans notre business, c'est toujours délicat de comparer les époques. Pascal a convoqué les souvenirs de l'OM en 90. C'était quand même l'OM qui allait, qui sortait l'AC Milan en Coupe d'Europe. Moi, j'ai des souvenirs, j'ai des
volé du droit, Chris Waddle.
Chris Waddle après avoir
droit,
été,
du droit, mec.
Après avoir été assommé les lampadaires.
Bon, alors, okay,
mais je veux dire, cette équipe de l'OM, le maillot Panasonic, pour pas le citer, bon, c'était extraordinaire. T'as cité évidemment l'hégémonie de Saint-Étienne. Moi, j'ai grandi à Bordeaux. On nous parlait beaucoup du Bordeaux de la fin des années 80, Aimé Jacquet, Alain Giresse, tout ça. Et bon, comment veux-tu les mettre? En revanche, la question pour le cas parisien, on parle de quoi? On parle du Paris qui a su justement tout remettre à plat et reconstruire sur un tas de cendres pour faire et donner vraiment du sens à ce concept d'équipe. Parce que cette équipe actuellement, elle domine sans qu'aucune méga star. Alors Dembélé était quand même une star, mais je veux dire après les Messi, Neymar, Mbappé.
Ouais, et, c'est pas des brels non plus.
Et, non, mais ce que je veux dire, c'est que et, en effet, si tu, je veux dire, il est quand même moins dominateur en termes comptables que le PSG Football Manager, des Zlatan, des Pastore, des Lavezzi, des Verratti. Donc, de quoi parle-t-on? Moi, ce que je trouve remarquable, alors Lyon, s'il y avait un débat à clôturer, c'est que Jean-Michel Aulas, en revanche, est le plus grand président, moi, je pense, de l'histoire de la Ligue 1, parce qu'il y a eu, il y avait dans cette OL un savant mélange entre les joueurs issus de la formation, t'as parlé du processus de recrutement, Pascal, les meilleurs jeunes arrivé à Lyon, et surtout il y avait une continuité parce que l'effectif changeait peu d'une saison à l'autre sur cette période.
Et merci puis aussi beaucoup, une propension à aller chercher des Brésiliens à Lyon à l'époque.
Il y avait une intelligence.
Mais bon, et le FC Nantes en 94-95 qui n'a pas gagné 15 fois de suite, c'est quand même légendaire.
Allez, 10h57 sur M, c'est la dernière ligne droite des GG du sport. C'est dans quelques instants, on va ouvrir les portes du vestiaire et puis sur le buzzer, on parlera de Loïs Boisson avant le début de Roland Garros la semaine prochaine. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.